j'ai une petite question comme ça, parce qu'on a Anne-Marie Delcambre qui vient tout juste de joindre à nous. Bonjour, Madame Delcambre.
Bonjour.
Et vous allez bien?
Très bien.
Et j'avais promis que je vous dirais quelque chose tout de suite sur le champ. Vous avez une de ces voix, là. C'est très charmant.
C'est normal, c'est la voix d'une bombe.
Oh! La voix d'une bombe en plus?
Ah oui,
attendez, là, une bombe?
Non, pas sexuelle.
Ah, ok, d'accord, bon, c'est bien. Bon, vous avez lancé quand même ce terme-là, je voulais juste être certain de bien saisir.
Oui, non, une bombe, ça veut dire une bombe au sens en arabe de Qunbula, c'est-à-dire quelque chose qui explose.
Ah, d'accord, ok, c'est assez différent, quoi.
Ah oui, bien sûr.
Bon, je m'étais dit que vous m'appreniez peut-être, ou pas peut-être, mais vous allez m'apprendre aujourd'hui un peu comment fonctionne le Coran. Est-ce que c'est possible?
Ah oui, bien sûr, tout ce que vous voulez sur le Coran. Alors, qu'est-ce que vous posez comme question?
Exemple, je sais pas, moi, disons que je suis un de vos étudiants que j'aimerais d'ailleurs être, et que je vais être carrément.
Bien sûr.
Oui, tout à fait. Par où commencer, dans le fond? C'est ça que je vais vous poser comme question. Par où commencer avec le Coran?
C'est-à-dire que je vais d'abord poser, on vous dira, mais la sourate la plus connue, la plus récitée, que connaissent tous les musulmans et qu'ils récitent tout le temps, à toutes les occasions, c'est la première sourate. Là, je vais faire une petite parenthèse assez vicieuse. La première sourate, elle est apparemment sans problème, on l'a comparée au paternoster, au notre père pour les chrétiens.
Ok.
Et je vais vous la lire, et vous allez voir qu'en apparence, c'est très très calme, très doux. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour du jugement, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Et en arabe, alors évidemment, ça fait Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina an'amta alayhim, Ghayr Mardoubi alayhim, Waladdallin. Alors sur le début, louange à Dieu, le Seigneur des mondes.
Et j'ai tout compris.
Ça va très bien. C'est toi que nous adorons, Yaka Narboudou, c'est toi dont nous implorons l'aide, aucun problème.
Ok.
Guide-nous dans le droit chemin, Irdina Sirat al-Mustaqim, pas de problème. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs.
Oui, c'est ça, là.
Alors là, tout d'un coup, je me dis, je ne comprends pas quels sont ceux que tu as comblés de tes faveurs.
Exact.
De faveur, je prends n'importe quel commentaire, aussi bien celui de Tabari ou celui du Saïd Qutb, le leader des frères musulmans, peu importe, les commentaires sont tous à peu près les mêmes. Et je regarde et je vois, je ne m'étonne pas, les prophètes, ceux qui sont en quelque sorte les pieux musulmans, etc. La voix de ceux contre qui tu n'es pas en colère. Je me dis, tiens, c'est bizarre, Dieu pourrait être en colère contre certaines personnes. J'ouvre le commentaire et je lis un seul mot. Ceux contre lesquels Dieu est en colère, ce sont, alors je le dis d'abord en arabe, Hum al-Yahoud, ce sont les juifs. Ceux qui ne sont pas égarés, je regarde encore attentivement mon commentaire et je vois Hum al-Nasara. C'est-à-dire, ce sont les chrétiens.
Ok.
Autrement dit, cette sourate, présentée comme la sourate de la paix, de la tolérance, la sourate qui est, si je puis dire, analogue à tout ce qu'on peut trouver comme prière, a un discours, a, si je puis dire, une lecture officielle, c'est-à-dire celle que je vous ai récitée au début.
Oui.
Et puis, il y a la lecture que connaissent tous les pieux musulmans, c'est-à-dire le commentaire, comment il faut comprendre ces versets.
Oui.
Et ça veut dire que ceux contre lesquels Dieu est en colère depuis le début de l'islam, contre lesquels il ne cesse d'être en colère, ce sont les juifs. Et ceux qui sont égarés, ce sont les chrétiens.
Je vous poserai la question...
Bien sûr, allez-y.
Qui me vient là, comme ça, la brûle pour point. Pourquoi les Juifs?
Parce que, alors, voilà, il y a dans le Coran, oui. Ça traverse tout le Coran, un énorme problème. On parle des fils d'Israël, Banu Israël, un nombre de fois incalculable, 40, 50 fois, 60 fois.
Okay.
Et ces fils d'Israël sont à un moment donné, sourate 57, traités de singes ou de petits mots comme ça, charmants, pas de libellules, hein, singes, chiens, chiens, comme les chiens qui en quelque sorte reniflent sur le sol, parce qu'ils ont rompu leur alliance. Ils se sont comportés comme des cochons, ils se sont comportés comme des chiens, ils n'ont pas écouté la prédication, et par conséquent, ils ne méritent plus d'être le peuple élu qu'ils étaient au début. Et ceux qui ont remplacé les Juifs dans l'amour de Dieu, ce sont les musulmans. Et je vais vous citer une sourate qui va vous dire combien c'est vrai, c'est la sourate 48, verset 29, et la sourate 48, c'est la sourate du succès triomphant.
Ouais.
Et là, c'est même la sourate que, si je puis dire, les Danois ont cité sans le dire, à savoir, c'est une sourate qui commence comme cela, elle est très « Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux ». C'est gentil déjà, hein?
C'est oui.
on continue après. Tu les vois, et on parle des musulmans, tu les vois inclinés, prosternés, recherchant en quelque sorte la grâce et l'agrément d'Allah.
Oui.
Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prière. Et alors après, ça continue, ça devient fou. Telle est leur image dans la Torah. Et telle est leur image dans l'Évangile. À savoir celle d'une semence,
okay.
Le musulman qui prie, hein, qui sort sa pousse, se raffermit et fait en quelque sorte l'émerveillement des semeurs. Et voilà quelque chose qui remplit de dépit les mécréants. C'est-à-dire que pour les musulmans, et ça je leur reproche un double langage, pour les musulmans, entre eux, l'islam est la religion naturelle de l'homme. Ce sont ensuite les parents qui font d'un enfant un juif ou un chrétien. Mais c'est la première religion. Mais je vous assure, c'est ça. Il y a un hadith qui le dit. Et il continue même, ce hadith, c'est un peu comme un animal dont on aurait coupé les oreilles, etc. Ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que ce n'est pas normal d'être juif ou chrétien. La vraie religion vers laquelle doivent en quelque sorte tendre tous les croyants, c'est l'islam. Et ça, on ne le dit pas. On pratique la taqiyya, c'est-à-dire une sorte de restriction mentale. On se dit, ces petits gogos, ces petits crétins, ces cons, à la limite occidentaux, on leur dit, mais si, c'est ça, les trois monothéistes, c'est la même chose. Et c'est faux. Le vrai, celui qui ose dire les choses, l'islam se veut la seule, la vraie religion. Et la première religion. La religion du début, la religion qui va depuis Adam jusqu'à Muhammad, et Muhammad est le seul prophète. Il dépasse tous les autres et c'est celui qui clôt la révélation.
Madame Delcambre, vous savez, ici au Canada, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas vu ce qui se passe, le brouhaha qui se passe ici. Il y a un jeune qui est de religion sikh qui portait un kirpan à l'école, et on lui a refusé, et maintenant, en Cour suprême, ça a été accepté, ils ont droit de porter le kirpan en tout temps, partout où ils vont, sauf bien sûr, sur les vols aériens, d'accord?
Mm-hmm.
Je me dis, si cet événement a réussi à passer au niveau de la Cour suprême, j'ai énormément peur de ce qui va se produire prochainement pour ce qui est exemple sans faire directement un parallèle avec l'islam, mais enfin je me demande si ces gens-là vont ne pas demander par exemple que les femmes soient tous voilées et qu'elles puissent y aller comme ça à l'école.
Je vous avez tout à fait raison d'avoir peur, et c'est pourquoi moi les gens ne me croient pas quand je dis voilà le problème de l'islam, c'est que comme toute religion qui se veut et qui se dit universel,
oui.
Pour tout le monde. Il y a dans son économie, le désir de conquérir et de combattre, soit par l'épée quand c'est possible, soit par la parole, c'est-à-dire de faire djihad, c'est-à-dire un effort à la limite, c'est que tout le monde puisse être connaître cette merveilleuse religion.
Okay.
Et c'est cela qui pose un problème, parce que eux, il y a un prosélytisme, il y a un désir d'expansion, et les Occidentaux sont plus du tout habitués à cela, plus du tout. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais c'est une religion, elle est très calme, on peut très bien l'accepter. Et alors, ils arrivent, et lentement, moi je ne diabolise les textes, hein, les hommes n'ont rien à voir, mais si vous lisez vraiment les textes, il est écrit dans le Coran, si vous êtes 20, vous en vaincrez 100. Vous voyez, c'est-à-dire, kutiba alaykum al-qital, c'est-à-dire, kutiba alaykum al-qital, le combat vous a été prescrit. Le combat, c'est-à-dire le fait de combattre. Et si vous combattez, à ce moment-là, petit à petit, vous arriverez à, à vos fins. À savoir islamiser.
Islamiser
la modernité, pourquoi pas, puisque l'Europe, c'est quelque chose qui les tente énormément. C'est-à-dire, il y a là un ventre mou, complètement un peu sans religion.
Oui.
Et l'islam donne des repères, incontestablement. Et il y a deux sourates, les abeilles et puis l'araignée qui dit discuter avec les gens du livre de belle manière, c'est-à-dire gentiment, douceur. Ils ont bien compris que l'Occident avait en quelque sorte peur. Alors c'est vrai que là ça leur a explosé au visage leur mensonge, parce que avec les caricatures on a un peu vu les, si je puis dire, les tartuffes, le vrai visage. Mais sinon ils disent avancez lentement, intégrez-vous dans les endroits où vous trouvez. Et même ils consentent, par exemple, pour le prêt à intérêt, qui est interdit dans les textes. Mais ceux qui sont en terre non musulmane, ils ont le droit, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent islamiser. C'est-à-dire que plus il y aura de musulmans sur une terre, plus la terre deviendra terre d'islam. Et alors, ils ont le droit de faire des prêts à intérêt, ce qui est intéressant, parce qu'un musulman qui a un bon traitement, avant, il n'avait pas le droit d'avoir un prêt à intérêt, de solliciter un prêt à intérêt. Maintenant, il le peut. Le conseil, justement, de la fatwa et de la recherche l'a permis. C'est grave.
C'est grave,
parce que,
oui.
Regardez en Belgique.
C'est très grave.
Il y a énormément de musulmans, par exemple à Charleroi, par exemple à Bruxelles, qui achètent de vieilles demeures. Et ils les restaurent, ils ont fait un prêt assez important, et plus il y a de musulmans, plus la terre devient terre d'islam. C'est pas du tout une question de racisme ou d'incitation à la haine.
Non.
S'ils n'avaient pas de projet de prosélytisme, je dirais, ça m'est égal, moi, qu'ils soient adorateurs de l'oignon, ou adorateurs de je ne sais quoi, ou que ce soit des papous, ou des bouddhistes, c'est pas ça du tout, parce que je suis profondément agnostique. Mais je dis, on a mis du temps à dire, attention, on veut la laïcité, on veut, et là, une religion qui dit que les croyants n'est pas égal aux non-croyants, que le juif et le chrétien sont pas, le non-musulman n'est absolument pas égal aux musulmans, que l'homme n'est pas égal à la femme, je me dis, bonsoir de mère de mille sabords, je ne veux pas du tout ça. C'est une religion inégalitaire, c'est une religion ce n'est pas du tout un projet de société qui est celui des Occidentaux en général. C'est le contraire aux droits de l'homme.
Alors il est normal, il est tout à fait normal du côté de l'Europe que les gens, parce que les commentaires qu'on voit assez souvent, on se sent plus chez nous.
Ben, c'est-à-dire que moi, je crois
qu'il y a là une
partie de bras de fer qui se joue.
Oui, tout à fait, mais est-ce que vous vous sentez chez vous?
Non, je ne me sens pas chez moi quand je vois, par exemple, des gens qui sont en train de revendiquer des choses que même du temps de Voltaire, on est en train de remettre en question. Bonsoir. Moi, je dis au secours Voltaire, au secours Diderot. Enfin, attendez, si on est en train, on désire, par exemple, représenter une pièce de Voltaire sur Mahomet, ou le fanatisme, et tout de suite, il y a des ligues musulmanes qui disent « Ah ben non, ça va blesser les sentiments des musulmans. » On veut, par exemple, on trouve dans un récit historique, par exemple, la légende des siècles, où il y a, effectivement, l'islam est égratigné, « Ah ben non, parce que ça va blesser les musulmans. » Mais je dis, mille sabords, quand on est dans un pays, moi j'ai été décoré en Égypte de la plus haute décoration, avec Gabrielli, qui est un orientaliste italien. Ben j'étais obligé de mettre une longue robe là avec je voulais il fallait entrer voilée. Je dis non, je suis pas musulmane. Alors j'ai mis un chapeau par-dessus et mon éditeur m'a dit vous ressemblez à un apiculteur qui s'occupe de sa abeille.
Ah non.
Mais si vous voulez, quand on est dans un pays, on est obligé plus ou moins. Après j'ai voulu, j'ai dit oh, j'enlève cette robe là de carnaval. Ils m'ont dit oh, non non non, c'est pas carnaval pour nous, vous êtes magnifique. Mais j'ai dit oui, mais je comprenais bien que bon, à la limite c'était nécessaire. C'est de même que si je vais à un cocktail, je ne vais pas m'habiller en espadrille. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Il faut tenir compte des lois du pays.
OK.
Et même à la limite, j'irais presque des coutumes.
Il y a une question que les Québécois, parce que qui posent énormément, et justement, je suis heureux de pouvoir être, si on veut, le porte-parole du parfait Québécois, pas trop connaissant, peu d'instructions. Non, je blague, mais il reste quand même que ce qui revient, c'est si moi, je décide, Mme Delcamp, de parce que je suis de religion catholique, et d'aller me construire une église chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas moi.
Ben, rien du tout. Et surtout si c'est en Arabie. Alors même en Arabie, alors c'est absolument dément en Arabie. Même pour faire Noël, il y avait. J'ai vu ça quand justement en cours d'une conférence, j'avais raconté ça. C'est inimaginable. Pour fêter Noël, des chrétiens à l'ambassade, c'était plus ou moins isolé, avec un petit sapin, des petits trucs, des petits chants de Noël, c'est mignon comme tout.
Voilà.
Alors la police des mœurs d'Arabie est entrée. Alors évidemment, le Père Noël affolé est passé par la fenêtre. Ils sortiraient des jouets des enfants. Tout le monde hurlait. Non, non, c'est inimaginable. Et vous voyez, c'est-à-dire, c'est par rapport aux autres religions. Alors je vous dis pas de construire quelque chose en Arabie. Et même pour leur propre religion. Il y a eu le feu dans une école où il y avait des filles qui étaient des filles d'Arabie Saoudite. Eh bien les filles, elles ont grillé parce que les pompiers ne pouvaient absolument pas voir les femmes. C'est impossible, elles sont toutes brûlées vives. C'est une religion qui, à la limite, confrontée à la réalité, c'est pour ça que je parle de la schizophrénie de l'islam, aboutit à des résultats absolument ahurissants. C'est-à-dire qu'un homme, on est là dans une atmosphère ubuesque. Alors évidemment construire une église. Et alors ce qui est très étrange, c'est que nos islamo-gauchistes, pardonnez-moi l'expression, mais je parle de la France,
hein, oui.
Qui à la limite n'entrerait jamais dans une cathédrale et on tire à boulet rouge contre le catholicisme, quand il s'agit de l'islam, eh bien ils sont devenus hémiplégiques. C'est-à-dire qu'ils bougent pas, ils sont paralysés. En arabe, on dit paralysie chalal. C'est-à-dire, ils sont là. Oh. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils bougent pas? Ben, ils bougent pas parce que, c'est la religion du pauvre. C'est la religion de l'opprimé.
Okay.
C'est la religion de l'émigré. C'est la religion du petit. C'est la religion. Et ces braves gens qui ont été autrefois peut-être, je sais pas où sont encore, marxistes, trotskistes, ce que vous voulez, tous les qualificatifs, eh bien, ils ne bougent pas. Au contraire, ils disent comme si pour eux c'était quelque chose d'exotique, un peu comme quand on va manger un bon couscous
ou quand on va danser
la danse du ventre. Ça les fait sourire, mais surtout faut pas toucher. Faut pas se moquer. Ah non, faut pas égratigner. Ils deviennent d'une frilosité absolument ahurissante. Mais en revanche, dès que quelqu'un un peu soupçonné d'extrême droite, etc., dit un petit mot, alors là, on le jette. Vous savez ce qui est arrivé chez nous à Philippe de Villiers?
Madame Delcamp, rapidement, j'ai des questions qui nous viennent par live@rocket.com. Ils sont de votre côté, hein, soit dit en passant. quelle finalité l'islam a-t-elle, un, et deux, la domination du monde, comme le nazisme?
C'est-à-dire que le croyant, voilà, il y a ceux qui savent, c'est-à-dire les imams, compagnie, ceux qui, à la limite, oui, il y a un projet d'islamisation de la modernité. Ils le disent parfois d'ailleurs, certains sont plus francs que d'autres. Et moi je pense que les islamistes sont beaucoup plus francs que les autres. Quant aux autres, ils se disent, attendons le moment, c'est une masse un peu, avec la différence qu'alors que les autres religions ont toutes plus ou moins leurs intégrismes, mais c'est petit, c'est minoritaire, vous voyez ce que je veux dire, les intégristes juifs en Israël, c'est pas la majorité, et c'est pareil, les intégristes chrétiens, c'est pas la majorité, c'est très minoritaire. l'islam, l'intégrisme diffus, je dis bien, diffus. Ça veut dire qu'il ne sait, vous voyez, qu'il explose comme quand on a vu avec des caricatures. Mais l'intégrisme diffus, c'est la majorité.
Ok.
C'est-à-dire une sorte... Et le but, c'est quand ils sont persuadés, pour répondre ça à nos charmants auditeurs, d'avoir la meilleure des religions. Et comme ils sont très réalistes, et si je puis dire, assez équilibrés, surtout dans le sunnisme, où ils sont dit, voilà la façon dont ils raisonnent, c'est la voie du juste milieu. On ne peut pas avoir telle chose maintenant, eh bien, attendons. La même chose quand il y avait le califat. Ils auraient préféré avoir un califat qui restât arabe. Il y a eu les Turcs, mais ils disent, vaut mieux un califat turc que rien du tout. Et puis, quand il n'y a plus de califat, ils disent, il vaut mieux arriver, s'intégrer dans certaines sociétés plutôt que de mourir de faim. Il y a un grand sens du réalisme. Et je dis qu'à long terme, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'ils ne disent rien, ils pratiquent, ils ont le droit de pratiquer ce qu'on appelle chez nous mensonge, ce que chez eux en arabe on appelle taqiyya, c'est-à-dire ne rien dire lorsqu'on est en territoire peu sûr ou ennemi. Jusqu'au moment, c'est comme la politique du ressort,
oui.
Quand ils seront en meilleure position,
c'est ça, exact.
Alors là, ils appuieront.
Ça va, c'est là que ça va faire mal.
Exactement. D'ailleurs, c'est un peu un proverbe, c'est-à-dire embrasse la main que tu ne peux pas mordre.
Ah. j'ai un paquet de questions. Je pourrais pas. Vous me permettez. Les auditeurs, je ne pourrais pas non plus tout passer. Ça déferle au niveau des questions. J'en ai une deuxième qui me vient tout de suite et qui me semble pertinente. Est-ce que les musulmans ne connaissent pas les rapports de force? C'est ça qu'on veut savoir ici, là.
Ah, oh, si. Justement, ils les connaissent
okay,
parfaitement.
C'est bon. Okay.
Et moi, je crois que... Non, je dois dire, parce que, attendez, là, je dois quand même aussi trouver... je pense qu'ils sont tout à fait conscients et tout à fait équilibrés. Ils connaissent les rapports de force. Et que c'est pas de ma faute, et ce n'est pas la leur non plus,
okay.
Si, en Occident, il y a parfois des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Alors évidemment, à ce moment-là, ils iront jusqu'au bout, sans aucune pitié. Mais qu'ils ne nous parlent pas, qu'ils nous aiment. Parce que quand j'ouvre le Coran et que je vois que précisément, je vais vous donner un exemple, exemple qui peut-être répond aux questions qui vous est posée, c'est la sourate 5, verset 64. Ça a même fait l'objet d'une fatwa au moment des émeutes chez nous.
Ah, oh.
Vous savez ce qu'on fait, le conseil du culte musulman? Ils ont pondu, si je puis dire vulgairement, une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique. Personne n'y a vu, enfin les gens n'y ont vu que du feu, même Sarkozy n'y a vu que du feu, parce que cette fatwa, c'est la chose suivante. Ils ont dit, ils ont mis une seule ligne, ils ont cité la fatwa, ça a été leur tort pour tomber sur une vicieuse comme moi. Ils ont dit, il ne faut pas semer le désordre, il ne faut pas semer le désordre sur la terre. Seulement, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas cité le verset en entier, c'est-à-dire sourate 5, verset 64, qui commence comme ça. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Et ils continuent après, regardez comme c'est gentil pour les Juifs.
Ben oui.
C'est-à-dire, nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Alors, vous voyez, c'était uniquement cité, Allah n'aime pas les semeurs de désordre.
Alors,
évidemment, celui qui ne connaît pas le Coran, il se dit, bien sûr qu'Allah, il n'aime pas les semeurs de désordre. Seulement celui qui connaît le Coran, il sait que ça fait référence aux Juifs. Et le message qui était lancé, c'était, ne soyez pas des corrupteurs comme les Juifs. Taisez-vous, calmez-vous.
Oh,
et là, je dis...
Franchement, ça n'a pas de sens.
C'est ça. Et moi, j'ai redit le contexte de cette fatwa.
Oui.
Ils citaient un autre verset. Et je dis, il faut que cesse. Chez ces gens qui ont, si je puis dire, l'autorité. Il faut que cesse la judéophobie qui est présente dans le Coran. Il faut que cela cesse. Parce que, vous savez, il y a dans un hadith de Tabari, c'est-à-dire quelqu'un qui a, en quelque sorte, qui cite la vie du prophète, et il dit ceci, là où il y a un juif, vous voyez, là où il y a un juif, tué, vous savez, il s'agit d'un contexte de guerre.
Oui.
Et à ce moment-là, quand les Juifs essaieront de se réfugier derrière, sous une pierre ou même derrière un arbre, la pierre elle-même et l'arbre diront, il est là, voilà, le Juif est là, tue-le, tue-le. Et moi, hier, devant mes étudiants, il y avait là des gens très religieux, je leur ai dit, vous savez, je vais vous citer quelque chose, vous allez me dire. Alors il y a immédiatement quelqu'un, il y a eu un malaise, ils ont dit, oui, mais c'est au jugement dernier. Ben, j'ai dit que ce soit au jugement dernier que ça se produise, ou maintenant. Et on ne peut pas empêcher un imbécile de dire, ça peut être maintenant si les gens avancent un peu l'heure du jugement dernier. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors l'élève m'a répondu, oui, mais si c'est un Israélien, moi je le tue tout de suite. Alors j'ai dit, moi, si vous continuez ce genre de propos, vous passez la porte. C'est-à-dire que le problème, c'est d'arriver à leur faire comprendre le poids de ces mots. Vous voyez, que ce n'est pas, que c'est pas du tout quelque chose de neutre, que ce qui est écrit dans la vie du prophète, ou ce qui est écrit dans le Coran, tuez-le, tuez-les, uqtuluhum, tuez-les, ça existe, uqtuluhum, que ceux qui m'écoutent et qui connaissent l'arabe, qatala, ça veut dire tuer, et uqtul, ça veut dire tu, uqtuluhum, tuez-les, tu, T-U-E-Z, trait d'union, L-E-S, tuez-les.
Comment on le prononce, uqtuluhum?
Alors, le verbe, c'est, il faut que vous fassiez exploser la lettre dans votre gosier. Kaf, kaf. C'est comme un K, mais explosé. On le transcrit par le Q.
Okay.
C'est le Q explosé.
Okay.
Ka, ka. Par exemple, katala, yaktulu, ça veut dire tuer. Et katala, yukatilu, ça veut dire combattre. Autrement dit, s'entretuer.
Okay.
Les musulmans jouent très très bien sur les deux. Ils ne disent pas qu'il y a énormément d'ordres pour tuer dans le Coran. Tuez-les, uqtuluhum, saisissez-les. Je peux prendre au hasard beaucoup de versets qui prêchent la violence. Et en plus, et là je révèle quelque chose, comme il y a des versets abrogés et des versets qui abrogent, ceux qui restent comme versets, ce sont les plus durs. Autrement dit, ce qu'a fait le prophète, il était assez gentil au début à la Mecque, mais à peu près, disons, vers l'année 631, l'an 9 de l'Hégire, 6, 2 et 9, 11, donc 631, la 9e année au moment où il s'est installé à Médine, eh bien, c'est devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme.
Okay.
Et là, c'est vrai que ce sont des versets extrêmement durs, et ce sont les versets qui ont été révélés dans la deuxième partie de la vie du prophète à Médine. Et quand les musulmans vous disent, mais non, mais regardez, l'islam est paix et tolérant, je dis, vous mentez. Vous savez très très bien que si au début on a parlé effectivement, juifs et chrétiens, qu'il y a eu la constitution de Médine, une sorte d'entente, eh bien à la fin, la dernière parole du prophète, c'est il a demandé que ne soient pas ensemble, qu'il n'y ait plus d'autres personnes que les musulmans en Arabie. Que les autres religions soient éjectées. Et vous voyez qu'en Arabie, est-ce qu'il y a d'autres religions qui coexistent en Arabie? Absolument pas.
Effectivement.
Donc c'est vraiment, on nous dit des mensonges, l'islam. Alors je précise et j'affirme, je signe, l'islam est violent, mais les musulmans, il peut rien avoir de doux comme des agneaux. Faut distinguer entre les textes auxquels se réfèrent les musulmans et les musulmans eux-mêmes. Et il y a autant de violence chez les musulmans que dans d'autres religions. Mais les textes eux-mêmes sont violents. Les textes eux-mêmes portent des injonctions pour prêcher à la fois, si je puis dire, d'aller en quelque sorte de combattre. Voilà.
J'ai une dernière question, Madame Delcambre, si vous me le permettez.
Mais non, mais je suis à votre disposition.
Ah ben, j'adore ça. et ça vient de France. Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs je ne suis pas et on n'est pas au courant de ce qui est arrivé à Monsieur Villiers à la manifestation de soutien de la famille Dylan.
Il y a en France un parti qui s'appelle un parti pour la France.
Oui.
Qui est dirigé par Philippe de Villiers,
c'est un noble
qui vit dans la province française, disons en Vendée, et qui est absolument pas antisémite. Hein. Je précise parce que, bon, l'extrême droite chez nous passe pour être, avoir tenu des propos comme Jean-Marie Le Pen un peu, disons, anti, enfin, pas un peu, réellement antisémite, mais le père de De Villiers, de Philippe De Villiers, est un colonel qui a été torturé et qui a fait la résistance. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas du tout antisémite. Mais il est anti-islamisation de la France. Et lorsqu'il y a eu cet assassinat, si je peux dire, ce meurtre du petit Ilan Halimi, Philippe de Villiers a décidé, en tant que Français, de participer au cortège. En soutien, c'est okay. Assez normal que tout le monde se déplace pour, en quelque sorte, un Français assassiné. Je pense que tout le monde est concerné. Eh bien, les associations... mais je pense, noyauté par des musulmans, l'ont en quelque sorte écarté comme un malpropre. Comme s'il ne faisait pas partie de la France, qu'il n'avait pas, et traité un peu de raciste. Pourquoi ? Parce que M. De Villiers a dit qu'il était contre l'islamisation progressive de la France. Et il a raison, c'est quelque chose qui est tout à fait réel. Il y a lentement une islamisation qui se produit, c'est-à-dire qu'on voit « Ah non, je n'accepte pas ça parce que c'est pas halal, ce n'est pas, je veux dire, licite. Ah non, je ne... » Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plus ou moins une sorte d'éboucherie qui fleurissent partout, les gens ne veulent pas, en quelque sorte, quand ils vont à l'hôpital, les femmes ne veulent pas être examinées par un médecin homme, les filles, en quelque sorte, tentent de rétablir le voile là où elles le peuvent. Vous voyez, il y a plein de... Bon, une femme qui voulait que son mari soit incinéré, un musulman. Les musulmans sont intervenus en disant que non, c'était pas possible. Enfin, vous voyez, on sent que petit à petit se met en place une islamisation. Bon, je vous dis pas les rayons halal dans les grands magasins. Bientôt, comme disent certains, on pourra plus manger de porc, on pourra plus boire. C'est quelque chose qui est quand même un petit peu qui pose problème à la société française. Je pense que c'est vrai.
Ok. En terminant, est-ce que l'islam a une chance de percer l'Amérique ? Est-ce que l'islam va percer l'Amérique ?
Ben, tout dépend de la résistance que les gens opposent, parce que, si vous voulez, le problème, si il y a des règles très fermes, ben, je pense que l'islam se cantonnera. Si je puis dire, l'islam suivra les règles, soit, ben, évidemment, les gens sont obligés de partir. C'est ce qui se passe un peu aux Pays-Bas, où il y a beaucoup de gens qui s'en retournent chez eux parce que ça devient trop contraignant. S'il y a, si je puis dire, une sorte de démagogie et de qu'ils sentent qu'ils peuvent, à la limite, progresser, c'est sûr qu'ils progresseront. Parce que, si vous voulez, c'est normal. L'islam cherche à s'imposer, à s'introduire. Alors, ce qui se passe en France, je ne sais pas si c'est possible en Amérique, mais ce qui se passe en France, c'est qu'il y a de plus en plus de liaisons mixtes. Il y a donc automatiquement, il n'y a pas... Bon, alors il y a à la fois sur le plan des rapports personnels, où il y a des conversions dues à des situations privées. Il y a ensuite, de la part des gens, en se disant, oh, après tout, toutes les religions, c'est équivalent, c'est pareil... les christianistes nous a fait suer pendant des siècles, ça sera peut-être pas pire avec l'islam, ça, vous voyez, c'est-à-dire, voilà.
Ouais.
Et du côté des juifs, ils se disent, ben, certains qui ne connaissent pas l'islam se disent, bon, c'est une religion de la loi, nous aussi, nous avons une religion de la loi, donc après tout, faut pas non plus hurler, en quelque sorte, comme si c'était un danger qui nous menaçait.
Une chose est sûre, Madame Delcamp, c'est qu'ici, ça fait énormément rager et ça laisse croire justement à la percée de ce qui arrive avec le jeune qui a eu l'autorisation d'amener son couteau. Et je me fous de la religion que ça peut être. Je ne comprends pas pourquoi la Cour suprême a rendu une décision que plusieurs, je vous dirais même à 99%, les gens trouvent ça stupide. Et ça laisse mauvais présage à ce qui s'en vient pour les autres religions qui vont probablement demander aussi que la Charte des droits et libertés canadienne autorise leur façon de fonctionner.
C'est ça qui est très grave. Et c'est ça, j'allais presque dire, c'est ça qui me fait le plus peur.
Ben oui!
C'est que, il y a un livre très intéressant, justement, de Pierre-André Taguieff, qui dit, attention, si vous poussez un concept jusqu'au bout, le concept de liberté,
oui,
vous arrivez à l'inverse de ce qui est de ce qui est voulu. C'est pour ça qu'il y a eu chez nous quelqu'un qui s'appelait Saint-Just à la Révolution, qui pour éviter d'avoir fait la Révolution pour rien, parce que si vous poussez jusqu'au bout, eh bien la liberté, on pourrait à la limite, les anciens ennemis pourront se réintroduire. Donc il avait dit pas de liberté pour les ennemis de la liberté.
Okay.
C'est ça qui est, il y a une faiblesse de la démocratie, c'est qu'effectivement si vous donnez la liberté à tout le monde, ben même les nazis pourront à la limite revenir sur la place, vous voyez ce que je veux dire, et les musulmans diront mais nous aussi, et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas aussi celui qui va arriver avec son couteau et ses armes? Eh bien sûr.
C'est
puisque
clair.
Au nom de la liberté, à la limite, vous allez vous, et au nom de la liberté, vous pouvez arriver à avoir des gens qui vont être liberticides, qui vont complètement pousser le concept et pourrir le concept.
Tout à fait, parce que et regardez, Madame Delcombe, on faisait de l'ironie tout à l'heure, et c'est pas compliqué. On s'est dit, nous, entre collègues, on va se partir une religion, on va avoir justement, on va s'acheter des Kalachnikov et on va les envelopper de tissus noirs et on va dire que c'est tout simplement notre religion. Je sais pas, je tourne ça complètement ridicule. Est-ce que ça pourrait aller à cet extrême?
Ben, c'est-à-dire que tout dépend, là, voilà le problème, c'est qu'on ne peut pas, comment dirais-je, les pensées ne paient pas de droit de douane, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne.
Okay.
Or, il y a effectivement de plus en plus de gens convertis aussi, qui sont, on appelle les émirs aux yeux bleus, des Européens convertis à l'islam, et de plus en plus ils sont utilisés, c'est ce qu'on dit les RG, les renseignements généraux, ils sont utilisés parce qu'ils font moins peur à la population.
Ouais.
Et c'est vrai qu'avec une liberté comme ça, tout est possible. Il n'est pas impossible, par exemple, il y a le boycott de tous les produits venant d'Israël, que par exemple quelqu'un fiche, je sais pas moi, il y a eu des jus de fruits empoisonnés venant par exemple de telle marque, ou vous voyez, bien sûr que c'est possible. C'est ça le problème, c'est que il y a un danger. Et je dis que c'est un danger réel, ce sera le danger, parce que tout dépend de ce que la personne a à l'esprit. Vous pouvez avoir devant vous quelqu'un qui n'a absolument pas d'idée, si je puis dire, de djihadiste ou subversif, et puis vous pouvez avoir des gens, regardez comme Khaled Kalkal chez nous, qui font des études de chimie, qui font des études d'ingénieur, qui sont apparemment parfaitement intégrés, et qui sont en quelque sorte pour établir le royaume d'Allah sur la terre. Enfin, vous voyez, un peu dans le genre Ben Laden.
Madame Delcambre, sur ce, je vous laisse. Une excellente soirée, je crois, de votre côté toujours. Ou c'est sur le point de se faire.
Oui.
Serait-il possible que je puisse vous demander une photo de vous?
J'en ai pas en principe, mais...
Non, c'est simplement pour les entrevues. Nous, on la rend disponible et on pourrait peut-être mettre votre photo. Sinon, on garde ce qu'il y avait sur le www.rocket.com avec votre livre qui était intitulé...
Ouais, c'est ça, gardez le livre.
C'est parfait comme ça. Ben, je vous remercie beaucoup, on se reparle la semaine prochaine.
Voilà, shukran jazilan.
Merci
beaucoup.
Bye bye, salut bien.
Au revoir.
Au revoir. Alors, c'était Anne-Marie Delcambre.